Philippiens chapitre 3, la joie vigilante, la joie vigilante. On va voir ce matin de Philippiens chapitre 3. Je vous invite à y tourner, Philippiens chapitre 3. On vient de voir dans les semaines précédentes le contraste entre une vie de sacrifice et une vie d'égoïsme. On a vu que Jésus-Christ est l'exemple suprême d'une vie de sacrifice. Il a donné sa vie, il a accepté lui qui était Dieu, le Fils de Dieu, de la nature divine, de devenir un simple homme, puis d'avoir toute sa gloire voilée, et de venir et d'être obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais Dieu l'a souverainement élevé en tant que Dieu fait homme. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant Jésus-Christ. Et donc ensuite, on a vu que des exemples de personnes qui s'étaient agenouillées volontairement, qui ont reconnu la seigneurie de Jésus-Christ, fondamentalement pour leur salut, mais ensuite pour le service. L'apôtre Paul, les Philippiens, Épaphrodite, Timothée. Nous, on a vu que dans l'entourage de Paul, où il était au moment qu'il a écrit le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens, pardon, il y avait dans son entourage donc les chrétiens qui cherchaient à suivre leur propre voie et faire leur propre intérêt. Et non pas de suivre une vie de sacrifice, mais d'égoïsme. Là maintenant, Paul se tourne au reste de mes frères et il va au-delà de cela, mais Il se répète, parce qu'il avait déjà mentionné l'aspect de la joie. Il lui-même se réjouissait de la part qu'il prenait à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Lui-même disait aux Philippiens de se réjouir justement des tribulations. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Et bien là, il va revenir sur le sujet encore, de se réjouir. Lui-même, chapitre 1, il s'était réjoui que Christ était non moins annoncé, même si c'est en apparence parfois très sincèrement, mais Christ est quand même annoncé et il s'en réjouissait. Et là, est-ce qu'il était découragé, chapitre 2, que dans son entourage, il ne trouvait personne pour pouvoir envoyer aux Philippiens, apprendre à connaître leurs besoins? Ça l'a tristé, mais il y a quand même ce joie de fond qui demeurait. Il était content d'avoir quelqu'un comme Timothée qui était prêt à être envoyé où ce qu'il lui aurait besoin. Content que Dieu lui a fait grâce, qu'Épaphrodite ait été guéri en passant sa montre, que le don de pouvoir faire les miracles, ce n'était pas à volonté, ce n'était pas là pour user à long terme, c'était là au début pour établir le Nouveau Testament. Mais ici déjà, vers la fin, Paul écrit à l'épître des Philippiens, et par d'Épaphrodite qui est passé proche de la mort, si Paul pouvait guérir à volonté n'importe qui selon le degré de sa foi, et, ben, il aurait pu guérir Épaphrodite, mais c'était pas le but, et Paul savait que c'était pas le but des miracles. Il avait guéri beaucoup de gens, Paul, à travers son ministère, mais il savait que c'était pour un temps, pour rétablir les choses, mais ça serait pas pour durer. Mais là dans le chapitre 3, on va lire versets 1 à 4. Je vous invite de vous lever par honneur à la lecture de la Bible. Je ne le fais pas tout le temps, je ne vais pas en faire une tradition. Mais simplement, parfois, il y a une manière de souligner que moi, ce que je dis doit être conforme à ce qui est écrit. Donc, pour la lecture de la Bible, on va se lever ce matin. Et ensuite, vous pourrez rasseoir puis écouter l'exposition de la parole de Dieu. Mais sachez que l'exposition de ce que je dis sur la parole de Dieu, elle doit être conforme à ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Et nous verrons la semaine prochaine, 4 et suivant. Ce matin, nous allons voir chapitre 3, versets 1 à 3. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, on te prie que tu puisses bénir cette parole dans nos cœurs. Aide-moi de bien exposer droitement le sens de ta parole et que chacun ici puisse vraiment vérifier l'exactitude de ce que je peux dire selon ce qui est écrit, on te prie, de ta parole. Seigneur, touche les cœurs sur le besoin de chacun. Tu connais ceux qui t'appartiennent. Seigneur Dieu, continue à travailler dans leur cœur pour être de plus en plus à l'image de Christ. Et Seigneur Dieu, on te prie aussi de toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, que tu puisses leur montrer la gloire et la simplicité de la bonne nouvelle de Jésus, comment il peut sauver parfaitement quiconque vient au Père par lui. Seigneur, on te prie donc de toucher les cœurs par ta parole, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La joie vigilante. Maintenant, quelle sorte de joie préférez-vous avoir? Une joie qui est un peu comme simpliste, une joie qui est naïve, une joie qui dit « il n'y a pas de problème, on va juste se réjouir, il n'y a pas de problème, on va juste se réjouir ». Ou une joie qui, en connaissance de cause, sait qu'il va y avoir des problèmes. Mais on sait que Dieu est plus grand que les problèmes, qu'il y a des solutions pour les problèmes. Et donc une joie qui est vigilante, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Et Dieu nous offre la deuxième sorte de joie ici, une joie vigilante, une joie qui n'est pas naïve, une joie qui est prudente, une joie qui quand même ne se décourage pas, même quand il y a des problèmes, même quand il y a de la supercherie, même quand il y a de la tromperie, même quand il y a des personnes qui s'opposent, qui nous met les bâtons dans les roues, même peuvent nous faire du mal. Comme il dit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alors c'est une grâce. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait donner un cadeau? On dit merci, c'est une joie. Et Dieu dit, c'est une joie de voir que Dieu nous donne la grâce de croire en lui. Et puis il nous donne la grâce de pouvoir souffrir avec lui. Donc la joie vigilante ici auquel Paul nous commande, c'est une joie qui est prudente, c'est une joie qui est avertie, c'est une joie qui est fondée. C'est pas le genre de joie d'être une autruche, puis on se met la tête dans le sable, on ne veut pas vraiment faire face à nos problèmes, on fait simplement un peu faire comme s'il n'y avait rien. Et on va se réjouir en se disant qu'il n'y a pas de problème. Non. Nous, la vraie joie chrétienne, c'est que les problèmes ont été résolus et Dieu est plus grand que les problèmes auxquels on va faire face dans notre marche pour le Seigneur. Proverbe chapitre 15, verset 13 dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Il y a quelque chose de la joie qui affecte même justement notre santé, comme la Bible dit dans Proverbe 17, 22 « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Et la science le remarque comment justement la joie affecte la manière qu'on peut guérir de quelque chose. Ça aide beaucoup la santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de santé, mais la joie va aider. La joie, c'est une décision. Les émotions vont suivre. Est-ce que c'est un commandement ici? Est-ce qu'il dit, réjouissez-vous quand ça vous arrive de vous réjouir? Quand ça vous tente de vous réjouir, puis tout est là, puis ça vous tente de vous réjouir, réjouissez-vous. Non, il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un commandement. C'est une décision. On se décide. L'apôtre Paul, quand il avait été en prison pour avoir prêché l'évangile dans l'église de Philippe, justement, pas dans l'église de Philippe, dans la ville de Philippe, et qu'il avait été jeté en prison avec Silas, et il avait été battu, et là, à minuit, peut-être il était trop endolori pour dormir, mais la joie, il chantait les louanges du Seigneur avec Silas. C'était une décision de chanter. Combien de fois à travers ma vie, dans les moments difficiles de marche chrétienne, la décision de prendre un des deux cantiques, pas dans une réunion là, je parle, juste moi tout seul quelque part, allez, je prends un des deux cantiques et je chante. Et au début, c'est lourd, mais les vérités et les mélodies, ça vient me rappeler qui Dieu est. Puis Dieu est au contrôle de tout. Romains 8, 28. Dieu fait concourir au bien tout. Toute choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Tout. Dieu peut prendre la pire des choses qu'on peut nous faire, la pire des injustices, la pire même de nos erreurs, dans sa grâce, de tourner en bien. Dans sa grâce, quand on veut marcher dans ses voies et apprendre de lui, quand on l'aime d'un amour qui reconnaît que lui nous a aimés en premier, eh bien, on sait que tout concourt. Alors, il y a une raison de se réjouir, peu importe ce qui arrive, pas d'une manière naïve, mais d'une manière fondée. Non pas en se mentant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chose. Non, il y a un problème. Mais Dieu est plus puissant que le problème et Dieu peut tourner le problème en bien. Dieu peut tout faire pour courir au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors voilà la joie auquel Dieu nous commande, la joie chrétienne de savoir que Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui qui règne et c'est lui qui va avoir le dernier mot. 2 Corinthiens 4, 17 nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » L'apôtre Paul en a vécu des choses. Il a été naufragé, battu, lapidé. Il avait le souci des églises. Il a vu de ses proches l'abandonner. Il a vu de toutes les couleurs. Mais il savait que tout ce qu'il vivait comme déception, comme oppression, ou comme persécution, comme souffrance, il appelle ça ses légères afflictions du moment présent. Il le voyait dans le contexte de l'éternité. Et il savait que la petite vie qu'on vit ici-bas sur Terre, même si elle dure 70 ans en moyenne, c'est juste une petite goutte d'eau comparée à l'éternité. Et le Dieu de toute consolation, il va sécher tous les âmes qu'on rentre au ciel. Ce sera une réjouissance éternelle. Ça ne se compare pas. Ça ne se compare pas. Et donc, qu'on prenne encouragement dans le contexte de ce que Paul dit. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, ça c'est le chapitre 4, il va le répéter encore. Donc, mais, comme j'ai dit, c'est une joie vigilante. Donc, tout de suite après, il dit, prenez garde aux chiens. Donc, deuxièmement, la sobriété et la vigilance auxquelles Dieu nous appelle ici. Il dit, prenez garde aux chiens. Maintenant, certainement qu'il faut prendre garde aux chiens physiques. Hein? Quand on prend une marche dans la rue, en Guyane, parfois il y a des chiens errants. Ou il y a des chiens qui appartiennent à des gens et leur clôture est mal fermée, puis ils sortent, puis ils peuvent nous mordre. Ça peut arriver, il faut être vigilant aux chiens. Certainement physique. Mais ce n'est pas le but ici dont il est question. Dans le contexte, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Les chiens, c'était en hébreu, c'était une insulte. Et en français aussi, si quelqu'un vous traite de chien, ben, ne pensez pas que c'est un compliment. Ne traitez pas les gens de chiens, parce que ce n'est pas un compliment. C'est plutôt le mauvais côté du chien qui est souligné, que les chiens ont des bons côtés. Mais quand on dit... c'est un chien, c'est pas le bon côté du chien qu'on souligne à ce moment-là. Et on comprend ça. Et là, dans le contexte, quand il dit prenez garde aux chiens, il parle des gens qui ont un mauvais caractère. Les gens, particulièrement, il les décrit prenez garde aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Donc, les mauvais ouvriers, c'est très direct, c'est des ouvriers iniques, pas juste des ouvriers qui travaillent mal. Ils peuvent très bien travailler, mais ils travaillent pour le mal. Ils sont peut-être très intelligents dans la manière qu'ils font les choses, mais ils travaillent pour le mal. Ce n'est pas juste des gens qui essayent de bien faire et qui le font pas bien, mais là, ils parlent de mauvais ouvriers. Martin Luther a dit, face à la mort, disait-il qu'il ne voulait pas partir sans que ses disciples connaissent non seulement la bénédiction de Dieu, mais aussi la haine du pape. Martin Luther savait que quand on se tient pour la vérité, eh bien, il y en a ceux qui vont haïr la vérité. Jésus l'a dit, le monde m'a haï, ils vont vous haïr aussi. Et certainement, Martin Luther, en acceptant l'évangile et en prêchant le salut par la foi et par la grâce, il savait que ça allait en déranger plusieurs dans ce monde. Et l'apôtre Paul nous dit ici qu'on a à se réjouir, non pas qu'on n'aura pas une opposition, mais on a celui qui est plus puissant que l'opposition. Donc on doit se réjouir et ensuite prendre garde aux mauvais ouvriers. Il dit aux faux circoncis. À ce moment-là, la circoncision particulièrement, il y avait les juifs qui disaient qu'il fallait être circoncis pour être sauvé. Il fallait devenir juif pour pouvoir croire en Jésus. Et ce n'était pas l'évangile. Dans les actes, c'était traité. Dans acte 15, c'était clair que cette question-là, elle était mal... c'était une mauvaise doctrine. Que les juifs étaient sauvés par la grâce, par la foi, autant que les païens. Parce que les juifs non plus ne pouvaient pas garder la loi. Ils étaient incapables de garder la loi. Et ça a pris un sauveur pour eux, de les sauver de la malédiction de la loi. Et les païens aussi. Donc ce n'est pas la question de devenir juif, ce n'était pas nécessaire de devenir juif. Regardez dans Galates chapitre 6, verset 15. Galates chapitre 6, verset 15. C'est juste un petit peu avant, deux livres avant Philippiens, entre les deux, il y a Éphésiens, mais Galates, c'est un tout petit peu juste avant Philippiens. Galates chapitre 6, verset 15, page 890. Il dit, car en Jésus-Christ, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et Dieu le dit dans Jean chapitre 3, qu'on a besoin d'être né de nouveau, par le Saint-Esprit. On a besoin, dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. On a besoin d'accepter Jésus-Christ pour être fait une nouvelle créature. Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres, parce que c'est Dieu qui doit transformer le cœur et nous rendre une nouvelle créature avant qu'on puisse faire des bonnes œuvres. Et donc, le fait d'enseigner que la circoncision, c'était le signe qu'avait donné Abraham pour ses descendants, ce n'était pas ça qui compte. Et les ouvriers qui disaient qu'il fallait devenir juif pour pouvoir être sauvé, c'était une fausse doctrine. Galates chapitre 5, verset 3 et 4. Galates chapitre 5, verset 3 et 4. Il dit, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Et encore aujourd'hui, il y en a qui prêchent qu'on doit non seulement croire en Jésus, mais ensuite garder la loi. L'Église, les Adventistes du septième jour annoncent qu'on doit, garder la loi. On est tenu de garder la loi. Et sur ce point, ils sont ici, comme il est dit dans Galates 5, ils sont tenus de garder toute la loi. Ils ne peuvent pas. C'est Christ. Dans Romains chapitre 10, nous dit très clairement dans Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nous sommes incapables de garder toute la loi. Christ l'a gardée, lui, au complet, à notre place. Et nous qui avons enfreint la loi, la punition qu'on mérite, Christ l'a subie à notre place. Il y a un échange. La punition que nous méritons à cause qu'on a transgressé la loi de Dieu, que ce soit la loi de Dieu, que ce soit de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, que ce ne soit pas de faire d'adultère, de ne pas dérober, de ne pas mentir, de ne pas, etc. Toutes les lois de Dieu sont résumées dans les 10 commandements. La loi d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, qui d'entre nous avons gardé cela. La loi de garder, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui avons gardé cela. Tout ce que nous méritons comme punition, la mort, donc, en punition d'avoir enfreint la loi, Christ a subi à notre place. Et Christ, lui, l'a gardé la loi parfaitement, il n'avait jamais, jamais, jamais péché. Sa justice nous est donnée, notre punition lui est donnée, il y a un échange. Quand on lui fait confiance, parce que c'est lui qui offre cet échange, c'est lui qui offre de sauver parfaitement. Alors vient ici ceux qui disent, non, c'est pas suffisant. Oui, oui, il faut croire en Jésus, c'est beau, mais il faut aussi devenir juif. Ou il faut faire ci, il faut faire ça, il faut garder la loi. Peu importe ce qu'on rajoute. Il y en a beaucoup qui disent, il faut être baptisé. C'est le baptême qui fait qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas suffisant de juste croire. Peu importe ce qu'on rajoute. À la foi en Christ, ça vient défaire l'équation. Ça vient l'annuler. Alors Paul ici, il dit à ceux qui sont sauvés, faites attention. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, ceux qui se disent circoncis. Et Paul dit, en fin de compte, c'est qui les vrais circoncis au Dieu? Dieu avait donné la circoncision comme un signe d'appartenance, mais c'est un signe. Le fait Abraham, croyant Dieu, il appartenait à Dieu. La circoncision qui compte, vraiment, c'est l'appartenance à Dieu. C'est dans cette optique que Paul dit les vrais circoncis. Il dit, comme il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. La vraie circoncision, la vraie cas de connaître Dieu et de lui appartenir, c'est par l'Esprit de Dieu et par Jésus-Christ. Ce n'est pas aucunement dans ce qu'on a pu faire soi-même, en aucun point. Et c'est ce qu'il dit. Encore aujourd'hui, on a des personnes qui enseignent un faux évangile. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont ni chrétiens et ils ne peuvent pas nous dire comment devenir chrétien parce qu'ils tordent la bonne nouvelle. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Si on parle de faux ouvriers, de faux circoncis, pardon, c'est des personnes qui se disent circoncis comme s'ils étaient des dieux, mais qui ne le sont pas. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, c'est page 884. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, ça dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres. » 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. « Ces apôtres, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Là, je parlais à quelqu'un et il me disait, hey, je réfléchissais sur Satan, lui, il se déguise en ange de lumière pour faire plus de mal. Fait qu'il joue avec la lumière pour faire encore plus de ténèbres. Tandis que Jésus, lui, il est devenu péché pour nous, ténébreux, pour faire ressortir encore plus la lumière, complètement le contraire. Satan, lui, se déguise pour faire plus de mal. Jésus, lui, il est devenu péché pour nous, pour la vraie lumière, pour vraiment amener les gens des ténèbres à la lumière. Contraste total. Mais justement, les faux trompeurs, c'est les personnes qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup d'églises, on vient de beaucoup d'églises dans le monde, beaucoup de dénominations. Hein? Il y a méthodistes, anglicans, catholiques, l'église nazarienne, l'église baptiste, charismatique, évangélique. Il y a des églises baptistes qui prêchent le vrai évangile. Il y a des églises baptistes, c'est devenu une tradition. Père Enfus, c'est une bonne personne qui. Dans tout cela, on doit faire attention. On doit faire attention parce que ça change. Regardez dans Deux Corinthiens 11, 4. Juste un petit peu avant 2 Corinthiens 11, 13 qu'on vient de lire. Juste quelques versets avant. 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui qui vous avait embrassé, vous le supportez fort bien. Là, il reprend les Corinthiens, parce que les Corinthiens, ils s'étaient laissés ouverts à recevoir des faux enseignements. Et justement, Paul confronte un peu plus loin, comme vient de lire, la source de ces faux enseignements. Il leur dit, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Il appelle l'église de Corinthe à vraiment se réveiller et de ne plus être naïf et d'accepter tout bonnement n'importe qui proclame Jésus comme si c'était le même Jésus. Il dit, lui, il présente un autre Jésus. C'est les faux ouvriers, en fin de compte, ils amènent non seulement un faux évangile, mais un autre Jésus. Alors la grande question, c'est quel Jésus, dans quel Jésus est-ce qu'on croit? Et là, ça m'a fait penser un peu à ceci. Dans Jean 8, 24. Regardez dans Jean 8, 24. Jean chapitre 8, verset 24. On va commencer au verset 23, c'est page 814, Jean chapitre 8, verset 23, 24. Et Jésus, il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Vous savez, on pourrait penser, ça n'aurait pas été plus naturel de dire, si vous ne croyez pas, qui je suis. Mais il dit, ce que je suis, ça change quoi? Ben, ça lui parle de la nature. Quelle est la nature? Quelle est sa nature? Est-ce qu'il est simplement un ange devenu homme, l'archange Michel, selon les témoins de Jéhovah? Ou est-ce qu'il est vraiment Dieu, le Fils de Dieu lui-même, de la nature divine, de la même nature que le Père? Est-ce qu'il est Dieu au sens de sa nature? Ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et il est triste à dire, mais les témoins de Jéhovah nous présentent un autre Jésus, l'archange Michel devenu Jésus. C'est très clair que dans Hébreu, ça dit, « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils ?» Donc, comment est-ce que l'archange Michel a pu devenir Jésus, le Fils de Dieu, quand Dieu a spécifiquement dit dans Hébreu, « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils ?» Bien sûr, Dieu ne parle pas d'un ange qui est devenu son fils, mais il a parlé de son Fils qui est unique, qui est complètement à part. Donc Jésus, le Fils de Dieu, il n'est pas un ange. Et c'est pour ça aussi qu'il reçoit toute l'adoration. C'est pour ça que Dieu dit, ici, il dit aussi dans Hébreux, chapitre 1, que tous les anges de Dieu l'adorent. Eux, ils vont le tourner en prosterne devant lui, mais c'est le même mot. Et ils jouent un jeu avec ce prosterner. Et de ce que Jésus est Dieu, Jésus est de la même nature que le Père. C'est pour ça que dans Jean chapitre 5, on est dit qu'on doit honorer le Fils comme on honore le Père. C'est pour ça aussi dans Apocalypse chapitre 5, que la louange à celui qui est assis sur le trône, c'est la même louange qui est donnée à celui qui est l'agneau. Il dit dans Apocalypse chapitre 5, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis à celui qui disait, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Donc à l'agneau. Donc, un autre Jésus, oui, nous apporte un autre Jésus. Un Jésus qui ne peut pas sauver parfaitement. Mais ça aussi, il y en a qui acceptent que Jésus est complètement Dieu. Mais nous avons quand même un autre Jésus. L'autre Jésus. L'autre Jésus des catholiques, par exemple. Un autre Jésus, parce que c'est un Jésus qui ne sauve pas parfaitement. C'est un Jésus qui a une... qu'une co-médiatrice, Marie. Le Jésus de la Bible, le vrai Jésus, il est dit, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'a pas une co-médiatrice, Marie. Marie de la Bible était celle qui a dit, oh Dieu, mon sauveur. Marie elle-même avait besoin de Dieu, son sauveur. Elle n'était pas une co-médiatrice dans sa pensée, loin de là. L'autre Jésus des catholiques, c'est un Jésus qui sauve jusqu'à un certain point, mais ensuite, il faut mériter, il faut faire les bonnes œuvres, il faut se faire baptiser pour devenir chrétien. Et ensuite, à la fin de sa vie, si on n'a pas tout purgé durant sa vie, on va finir de purger où? Dans le purgatoire. Ça, c'est un autre Jésus. Mais aussi l'autre Jésus du mouvement pentecôtiste. L'autre Jésus est un qui ne sauve pas parfaitement, mais un qui sauve provisoirement. Du moment qu'on n'abandonne pas, du moment qu'on produise les fruits, tout ça, parce que le salut qu'il offre peut se perdre selon lui, mais ça c'est un autre Jésus. L'autre Jésus des Mormons, et l'autre Jésus, c'est un autre Jésus. Donc quand Paul dit dans Philippiens, prenez garde aux faux circoncis, c'est parce qu'il présente un autre Jésus. Il n'y a qu'un seul vrai Jésus qui peut sauver parfaitement quiconque vient de Dieu à Dieu par lui. Mais il y a aussi beaucoup, de plus en plus, dans le mouvement évangélique, ceux qui disent, oui, on croit en Jésus, le Jésus qui sauve parfaitement. Mais en même temps, ensuite, après cela, ils disent, mais on ne doit pas être si particulier. Et ça, c'est encore des faux ouvriers qu'on doit exposer pour dire, wow, il nous présente un autre Jésus qui est inclusif, qui est un petit peu un Jésus qui se fait tout à tous. Un Jésus des évangéliques, mais qui pouvait aussi être celui des témoins de Jéhovah, celui des... Il n'y a pas tellement de différence, c'est le même Jésus. Je pense à John Stott, un auteur qui a écrit La vérité évangélique. Et là, je pourrais prendre son chapitre 1, 2, 3 et les prêcher. Parce que c'est des chapitres qui sont très bien dans leur exposition de la parole de Dieu. C'est comme, waouh, c'est vraiment précis, c'est bien. Mais tout change avec sa préface. La préface, c'est dire, nous les évangéliques, on doit se rappeler que ce qu'on croit, et qu'on va voir au chapitre 1, 2, 3, on doit se rappeler que nous sommes un courant parmi d'autres. Il y a le courant évangélique du christianisme, il y a le courant libéral, il y a le courant catholique. Rappelons-nous qu'on est un de plusieurs courants. Alors, il vient d'annuler tout ce qu'il vient de dire. Autrement dit, tout ce qu'il va dire au chapitre 1, 2, 3 sur l'évangile, ça c'est juste notre opinion. C'est notre manière de comprendre les choses. Mais ce n'est pas le dernier mot. On doit prendre un recul à tout cela. Et moi, je vous dis, sur l'autorité de la parole de Dieu, si Paul avertissait contre un autre Jésus, si Paul avertit les Galates de ne pas croire à quelqu'un qui viendrait avec un autre évangile, eh bien, on doit faire attention à quelqu'un qui dit, après tout, comme un autre qui dit, J.I. Packer, qui lui croyait en Jésus par la foi, par la grâce, tout ça, mais il dit, après tout, qu'est-ce qui sauve? Les catholiques, ils ont une manière de comprendre la foi, ils ont une manière de comprendre Jésus, ils ont une manière de définir la régénération, la justification. Les évangéliques, on a une autre manière de comprendre la justification. Mais il dit, après tout, qu'est-ce qui sauve? C'est pas une définition particulière de la justification, c'est la foi en Christ lui-même. Ah! Alors là, il est en train de dire, le catholique, il croit quand même en Jésus, même si sa définition de justification est différente. Waouh! Qui sommes-nous pour dire notre définition de justification est la seule qui est possible? Et là, il vient de dire, en fin de compte, oh, Jésus, il est le Jésus des évangéliques, autant qu'il est le Jésus des catholiques, peu importe la manière qu'on définit les choses, c'est pas grave. Ça, c'est pas ce qu'on a vu dans la Bible. C'est pas ce que Paul dit, prenez garde aux faux ouvriers, prenez garde à ceux qui disent, c'est pas assez de croire en Jésus, maintenant il faut garder la loi. Mais c'est ce que, justement, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les adventistes du septième jour, et bien d'autres, les anglicans, bien d'autres églises. Il y en a qui prêchent justement qu'il faut garder la loi, c'est pas suffisant de croire en Jésus, il faut maintenant produire les fruits, il faut faire les choses, il faut mériter, il faut faire attention de ne pas le perdre, etc. Et en fin de compte, ça dépend sur l'homme. Et Paul, il dit bien attention, il y a des faux ouvriers et il y en a ceux qui prêchent selon la parole de Dieu. Prenez garde aux faux, prenez garde aux faux apôtres, prenez garde à ceux qui vous présentent un autre Jésus. Et donc, même les évangéliques qui ont fait que disent, on peut préparer, hein, c'est tout après tout, c'est la foi en Christ lui-même qui sauve, pas selon une définition. Ils viennent dire, il n'y a plus de différence. Ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est aussi l'autre Jésus qui est le plus difficile à discerner. cet autre évangile qui est le plus difficile à discerner. Parce que ce sont des personnes qui disent, oui, moi je crois personnellement en Jésus selon la Bible, je crois que c'est par la foi, par la grâce, c'est pas par les mérites, c'est pas en regardant la loi, c'est Jésus seul, le Fils de Dieu, c'est Jésus qui est mort à la croix pour tous nos péchés, c'est lui qui est... c'est ce que je crois. Mais ensuite ils disent, moi ce que je crois, c'est pas la fin des choses. Il y en a qui croient qu'ils différemment, mais ils sont tout autant sauvés que moi. Et là, ils viennent de dire que leur foi, c'est simplement une opinion, en fin de compte. Ça, c'est pas l'évangile. Nous devons croire que Jésus, il n'est pas juste notre manière de voir. Jésus est, selon la Bible, qui il est et ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, de la nature divine, autant que le Père. Il s'est fait homme, il est mort pour tous nos péchés une fois pour toutes, il a été ressuscité une fois pour toutes, il sauve parfaitement ceux qui se repentent et croient en lui. C'est lui qui scelle du Saint-Esprit, c'est lui qui sauve parfaitement, et c'est la vérité. Je crois en cette vérité, mais c'est la vérité, c'est pas juste ma foi, c'est la parole de Dieu. Nous devons croire que l'évangile, c'est plus que juste notre façon de voir les choses, mais c'est ce que Dieu dit. C'est la parole de Dieu. Et c'est là que Paul, s'il était là aujourd'hui, il nous avertirait encore aujourd'hui de prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde à ceux qui se confient dans la chair et qui pensent qu'on peut rajouter quoi que ce soit à l'œuvre divine du salut. Et donc, encore aujourd'hui, nous devons être vigilants. On ne doit pas être vaincu, défaitiste, avec une joie, savoir que Dieu va régner. En même temps, Dieu veut qu'on soit vigilant et qu'on se tienne pour et combatte pour la foi de l'Évangile. Combattre pour le vrai Jésus, le vrai Évangile, le vrai message. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de faux Jésus, d'autres Jésus qui se sont enseignés ici et là dans des églises. Et ils amènent plus loin dans le mal. Et ils trompent, étant trompés eux-mêmes. Est-ce que vous avez personnellement cru en le vrai Jésus? Celui qui sauve parfaitement, basé uniquement sur son œuvre, sa résurrection. Si vous ne l'avez pas encore, si vous n'êtes pas certain vraiment de l'avoir accepté, ça me ferait plaisir d'essayer de vous aider avec la Bible, de vraiment vous montrer comment avoir une vraie relation avec lui, pas basé sur une opinion qu'on peut avoir, mais vraiment sur la confiance que quand Dieu dit une chose, c'est la vérité. On va croire qu'est-ce qu'il dit sur la nature de qui est Jésus-Christ, sur la nature de son œuvre, et on va lui faire confiance avec notre âme pour l'éternité, pour éviter les souffrances éternelles. Parce que Dieu avertit que quand on ne se convertit pas, on va mériter la souffrance éternelle qui n'aura jamais de fin. Dieu avertit contre cela, et on ne peut pas enlever tout ça, comme certaines églises font, en disant « Non, ça c'est juste, il n'y aura plus d'âme, tu n'auras pas perdu grand-chose, tu n'auras juste pas une éternité avec Dieu, mais si tu ne te convertis pas, tu vas brûler à la fin et ce sera fini. Tu n'auras pas de souffrance. » Ça, c'est un faux évangile aussi. On va prier. Seigneur Dieu, touche tes cœurs, on te prie, merci, que Paul, ici, par le Saint-Esprit, dans ta parole, nous dit de se réjouir d'une façon vigilante et prudente vis-à-vis des faux messages qu'on retrouve autour, Seigneur, dans ce monde. Aide, Seigneur Dieu, on te prie, à ce qu'on puisse se réjouir d'une façon vigilante et bien prudente. Au nom de Jésus. Amen.